Donc, bonjour à tous. Comment l'alimentation peut agir sur notre cerveau et plus particulièrement sur son vieillissement? Je vous propose cet après-midi de faire ensemble un tour d'horizon des principales recherches en matière de nutrition et de neurosciences. Or, vieillir n'est pas une maladie. En revanche, le fait de vieillir augmente le risque de maladie, et en particulier de la maladie d'Alzheimer. Il existe tout au long de notre vie des facteurs de risque, donc notamment comportementaux, qui vont augmenter ce risque. En particulier, on l'évoquait tout à l'heure, le fait de faire peu d'études augmentera ce risque. Une hypertension qui n'est pas soignée aux alentours de 40-50 ans fera également augmenter ce risque, au même titre que de l'obésité, le stress, la dépression, le manque d'activité physique, dont on a parlé également tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que s'il existe effectivement des facteurs de risque, cela signifie également qu'il existe des stratégies de prévention. On l'a évoqué tout à l'heure, s'il y a un chiffre que vous deviez retenir, c'est celui-là. Si nous étions en mesure de retarder de 5 années l'apparition des symptômes de la maladie d'Alzheimer, on diminuerait de moitié le nombre de malades. Donc vous voyez, c'est assez conséquent. Et donc pour revenir là-dessus, sur ces notions de stratégie, il existe 4 piliers ou 3 piliers principaux. Le premier, les interactions sociales et l'activité intellectuelle. Quand on parle d'interaction sociale, très concrètement, c'est avoir des amis, c'est voir sa famille. Avoir une activité intellectuelle, c'est tout simplement lire, ou jouer au Scrabble, ou éventuellement faire du sport, comme au travers du ping-pong, et qui définit aussi un deuxième pilier, qui est l'activité physique. On vous recommande, vous savez, de faire en minimum 7000 pas par jour, 10 000 c'est mieux, mais tout simplement de marcher un petit peu, vous permet effectivement de maintenir un cerveau en bonne santé. Le dernier pilier est l'alimentation. C'est celui que nous allons voir maintenant, plus précisément. Alors, le régime qui a été le plus étudié, c'est depuis les années 60 en fait, est le régime méditerranéen. Alors, le régime méditerranéen, on en a beaucoup entendu parler, notamment sur les risques cardiovasculaires. Mais en réalité, ce type de régime a un intérêt très clair au niveau de la santé cérébrale et du déclin cognitif. Concrètement, c'est quoi le régime méditerranéen? C'est un régime qui va mettre surtout l'accent sur la consommation de fruits et de légumes, mais également d'huile d'olive. Et en ce qui concerne les sources de protéines, on va plutôt avoir tendance à privilégier le poisson ou les crustacés, dans une moindre mesure les viandes blanches et dans une moindre mesure encore la viande rouge. Vous voyez également le fait de boire de l'eau. Il faut effectivement tout simplement avoir un cerveau qui est bien hydraté pour qu'il fonctionne correctement. Dans le cadre de ces études, que je disais précédemment, qui ont démarré dans les années 60, on s'est rendu compte, donc ce sont des études épidémiologiques, en gros c'est on observe des gens qui vont avoir un comportement plus qu'un autre, et en l'occurrence des gens qui vont consommer un régime de type méditerranéen versus ceux qui n'en consomment pas. Et on se rend compte qu'effectivement, vous avez une diminution du risque de développer des troubles cognitifs de l'ordre de 20%. Et quand on regarde plus précisément la maladie d'Alzheimer, c'est 40%. Donc encore une fois, je vous parle de choses de prévention, je ne parle pas de médicaments, mais ce que chacun au quotidien, nous pouvons mettre en place. Alors il y a eu d'autres régimes qui ont été étudiés, notamment aux États-Unis, un régime qu'on appelle le DASH diet, qui est plutôt focalisé sur l'hypertension, je l'évoquais précédemment. L'hypertension est un facteur de risque, notamment lorsque vous avez 40-50 ans, si vous ne le traitez pas, vous augmentez votre risque de la maladie d'Alzheimer. Et dans ce type de régime, on va notamment diminuer la quantité de sel. Et pour ce qui est du reste, on va également privilégier des fruits, des légumes et des céréales complètes notamment. Et il a été imaginé un autre régime qui est une synthèse entre le régime méditerranéen et le DASH, qu'on appelle le Mind Diet. Et ce qui est intéressant dans ce régime, vous avez sur cette figure trois niveaux. Des personnes qui vont avoir ce qu'on appelle un score Mind, donc qui suivent peu le régime de type Mind, avec un déclin cognitif beaucoup plus marqué, versus des gens qui, eux, au contraire, vont consommer beaucoup plus de fruits et de légumes, vont limiter également l'apport de sel, et d'une façon générale, vont privilégier aussi, plus particulièrement, des fruits rouges et également des légumes à feuilles vertes. Je pense notamment aux épinards, qui vont amener un certain nombre de nutriments que nous allons voir. Et dans ce cadre-là, il s'agit d'études d'intervention. On n'est plus simplement sur de l'observation. Et ce que l'on constate, c'est qu'en suivant ce type de régime, effectivement, on diminue sérieusement le déclin cognitif. Alors, quand on regarde un peu plus près maintenant, quel type de nutriments peuvent potentiellement avoir un intérêt pour la prévention du déclin cognitif? Les antioxydants. Je pense qu'on en entend tous parler dans notre alimentation. Concrètement, c'est quoi? Vous imaginez une barrière en métal avec du fer dedans. Avec le temps, elle rouille. Et en fait, si vous voulez éviter qu'elle rouille, vous allez mettre, des antioxydants, donc un anti-rouille. L'organisme, c'est pareil. Tous les jours, on est agressé par des oxydants. Et heureusement, la machine est plutôt bien faite, on a des antioxydants naturels, notamment des systèmes enzymatiques, type superoxyde dismutase ou des GPX, qui vont venir nous protéger. Pour autant, l'alimentation joue un rôle fondamental, puisque votre alimentation va vous apporter un certain nombre d'antioxydants. D'un point de vue pondéral, les premiers, ce sont les polyphénols. Alors les polyphénols, c'est quoi? Ce sont en fait des molécules qu'on va retrouver uniquement au sein des végétaux. Vous en consommez tous les jours, sans même le savoir, ou même lorsque vous buvez du café. C'est ce qu'on va retrouver, par exemple, comme molécules qui vont vous donner la couleur du raisin rouge, par exemple, ou d'un fruit rouge, ou d'autres produits de ce type-là. Et dans cette grande famille de molécules, qui aujourd'hui, on en a identifié environ 8000, vous avez des sous-familles, dont une en particulier, qui joue un rôle fondamental dans la prévention du déclin cognitif, qu'on appelle les flavonoïdes. À côté de ces polyphénols, vous allez retrouver des vitamines, notamment vous connaissez très bien la vitamine C, qu'on va retrouver notamment dans le jus d'orange, mais si vous consommez du poivron, vous allez en avoir beaucoup plus. Vous allez retrouver également la vitamine E, les caroténoïdes. Caroténoïdes, vous entendez carottes, hein, c'est les carotènes, c'est des pigments orange qui donnent la couleur orange à la carotte. À côté de ça, vous avez de la vitamine D qui joue un rôle fondamental, notamment par exemple dans la dépression, mais également dans la maladie d'Alzheimer. Et puis également des lipides, je pense aux oméga-3. Les oméga-3 sont des constituants essentiels du cerveau. Enfin, les vitamines B. Tout à l'heure, je vous mentionnais les légumes à feuilles. On va retrouver notamment les vitamines B dans les légumes à feuilles. Alors pas que, on va retrouver aussi dans les céréales, mais les légumes à feuilles sont particulièrement riches, et en particulier en folate, qu'on appelle la vitamine B9. Alors, une fois que je vous ai dit ça, très concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On mange tous les jours, généralement trois fois par jour. Comment peut-on choisir ces aliments pour augmenter ce que l'on appelle la densité neuronutritionnelle? En clair, c'est quoi? La densité neuronutritionnelle correspond tout simplement à la quantité d'énergie. Donc lorsque vous consommez des pâtes ou du pain, vous allez amener effectivement de l'énergie. Ce qui est intéressant, c'est d'éviter d'amener des calories dites vides. Il est préférable d'amener également des nutriments d'intérêt qui vont augmenter l'intérêt de l'aliment. Je vous ai mis des exemples, une Golden Smith, donc une pomme qui est très bien, une pomme de terre, du raisin blanc, du beurre. Or, tous ces aliments-là sont très bien. Il n'y a pas d'aliments à diaboliser, en aucun cas. L'alimentation, surtout pour les Français, il faut que ça reste un plaisir. En revanche, on peut simplement, par des comportements de sélection d'aliments, augmenter cette densité. Si vous prenez la Golden Smith, qui peut être très intéressante, elle est juteuse, elle va vous amener des fibres, privilégiez plutôt des pommes rouges. Choisissez avec vos yeux vos aliments. Concrètement, ça veut dire quoi? En fait, dans la nature, la concentration en polyphénol, vous savez, les molécules dont je vous parlais tout à l'heure, elle varie de 1 à 10 en fonction du type de pomme. Là, je prends juste l'exemple des pommes. Privilégiez plutôt la Red Delicious ou la Pink Lady. Elle vous amènera beaucoup plus de polyphénol qu'une simple Granny Smith. elle sera peut-être tout aussi goûteuse et tout aussi intéressante. Lorsque vous consommez des pommes de terre classiques, ça vous amène de la vitamine C, les gens ne le savent pas trop, ça vous amène aussi un peu de polyphénol, mais rien ne vous empêche d'ajouter un peu de patate douce dans votre purée de pommes de terre. Là, vous allez augmenter votre densité neuronutritionnelle tout simplement en apportant des caroténoïdes. Vous pourriez également ajouter du brocoli, qui va vous amener également des caroténoïdes, même si effectivement c'est de couleur verte, vous amenez quand même pas mal de caroténoïdes. Entre le raisin blanc et le raisin rouge, préférez le raisin rouge. Là, il n'y a pas photo. Enfin, je vous parlais tout à l'heure de régime méditerranéen, on parle d'huile d'olive. Alors l'huile d'olive, bien sûr, il y a des acides gras intéressants, mais ce n'est pas tellement ça qui est intéressant là-dedans, c'est surtout les polyphénols d'olive, dont on sait par exemple qu'ils vont passer la barrière hémato-encéphalique, dont parlait tout à l'heure un des professeurs, et qui jouent par exemple un rôle sur ce qu'on appelle la neurogénèse. Bon, j'insiste, ça ne veut pas dire qu'il faut exclure le beurre, mais essayez de privilégier ou de modifier un petit peu vos comportements en ayant des aliments qui sont beaucoup plus riches en densité neuronutritionnelle. Alors, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a dit ça, vous voyez, ça, c'est à la portée de tout le monde à partir du moment où on le sait, où on est capable de choisir ses aliments en fonction de cette densité neuronutritionnelle. Donc, ma société, effectivement, je suis un des cofondateurs et je suis directeur de recherche de la société Active Inside. Donc, nous, on ne vend pas de produits finis. On est spécialiste dans la conception et le développement d'actifs végétaux, plus particulièrement dans le domaine de la neuronutrition. Et on s'est focalisé sur tout ce qui est raisin et safran, dont vous évoquiez tout à l'heure. On est localisé à côté de Bordeaux. Et dans le cadre de ces développements, on a monté un programme, qui s'appelle Silver Brain Food, qui est un programme qui a démarré au 1er avril 2021, qui est sur une durée de 5 ans, et d'un projet qui est également soutenu par BPI France, puisque le projet fait un total de un peu plus de 16 millions d'euros. Donc c'est quand même, un projet assez conséquent, y compris au niveau mondial. Et ce projet associe d'autres partenaires, notamment un partenaire industriel qui s'appelle EC6, qui est spécialisé dans la restauration gériatrique, également au niveau des hôpitaux et du handicap. Et à côté de nos deux structures, existe deux autres structures académiques qui sont sur Bordeaux également, puisqu'il y a en fait un neurocampus assez intéressant et assez fort au niveau français. La première unité mixte de recherche s'appelle NutriNeuro, donc c'est nutrition et neurosciences, qui associe l'Université de Bordeaux et l'INRAE. Et la deuxième, qui s'appelle BPH, donc Bordeaux Population Health, qui associe l'INSERM et l'Université de Bordeaux. Donc l'idée de ce programme, c'est d'augmenter cette densité neuronutritionnelle au travers de l'alimentation. Alors, pour expliquer un petit peu la genèse de notre programme, je vais remonter en 2007. En 2007, une première publication issue de BPH montre, chez des personnes saines, on ne parle pas de personnes malades, qu'une consommation élevée de flavonoïdes, vous savez, la sous-famille dont je parlais tout à l'heure là, de polyphénol, était associée à un déclin cognitif moindre. Donc vous voyez, sur une dizaine d'années, on se rend compte qu'effectivement, des gens qui vont consommer un peu plus de flavonoïdes ont un déclin cognitif beaucoup moins marqué. Donc là, c'est la différence entre les deux courbes. 2007, 2011, je décide de monter un premier programme de recherche qui s'appelle Neurophénol, qui associe à la fois des Français et des Canadiens, des académiques et des industriels. Et dans le cadre de ce projet, qui va durer 5 ans, on va faire tout un tas de manips, plus particulièrement sur un certain type de polyphénol, de flavonoïdes. Et ces études vont nous permettre notamment de faire des essais au niveau ce qu'on appelle préclinique, mais également au niveau clinique. Études que l'on a publiées dans des revues à comité de lecture, donc des revues scientifiques, et qui vont être prises dans une revue qui est assez connue, qui s'appelle JAMA, qui a un impact factor, donc si vous voulez, c'est une note que l'on donne aux journaux scientifiques, qui est supérieure à Nature. Donc pour nous, c'était quand même une consécration, y compris pour les équipes de recherche académiques. Et ce qu'on a montré en fait dans ce programme, c'est la chose suivante. On a notamment fait une étude clinique, donc sur 215 personnes, donc plutôt de type phase 2, et on s'est rendu compte que les personnes avaient en moyenne 65 ans. À 65 ans, tout en étant sain, je ne parle pas de personnes malades à ce stade-là, vous pouvez aussi avoir un âge cognitif de quelqu'un qui en a 55. Là, très clairement, vous allez jouer à question pour un champion et vous allez gagner. Mais vous pouvez aussi avoir 65 ans tout en étant sain et avoir un âge cognitif de quelqu'un qui en a 75. En l'espace de 6 mois, donc une étude d'intervention en double aveugle, avec versus un placebo, c'est-à-dire que ni le patient ni le médecin qui donnait le produit ne savait ce qu'il donnait, on a récupéré une dizaine d'années sur les personnes justement qui avaient un déclin cognitif plus marqué. Donc une étude d'intervention qui a duré 6 mois, uniquement sur la base de polyphénol issu du raisin et du bleuet, qui est une baie qui pousse en Amérique du Nord. Donc là, vous voyez, on est en 2016-2017, il va falloir que j'accélère. Suite à ces travaux-là, je suis retourné voir l'équipe de BPH en leur disant, écoutez, on a vu qu'effectivement, les polyphénols pouvaient avoir un impact favorable sur le déclin cognitif, sur des personnes saines. Qu'est-ce qui se passe chez des personnes malades? Est-ce qu'à tout hasard, il y aurait un impact de la consommation de certains polyphénols sur la prévalence de la maladie d'Alzheimer? Donc je suis retourné les voir. Et sur cette base-là, on a fait une publication, je vais accélérer, sur une étude donc, qui a porté donc, une cohorte qui a été étudiée pendant une douzaine d'années. Et on s'est effectivement rendu compte qu'en fonction du type de polyphénol que vous aviez dans votre alimentation, il y avait une corrélation entre la prévalence de cette maladie et la consommation. Concrètement, plus vous consommez un type de polyphénol, donc dans votre alimentation quotidienne, moins votre risque est important. Ça veut dire que le risque est égal à zéro, mais vous diminuez fortement, en tout cas, cette prévalence. Du coup, en ayant revu ces partenaires, avec qui je travaillais déjà depuis pas mal d'années, j'ai dit, écoutez, ce serait intéressant de monter un programme un peu plus ambitieux que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Et donc, c'est le projet Silver Brain Food qui vient de démarrer et dont l'ambition principale est de prévenir le déclin cognitif à la fois normal, mais également pathologique au travers d'une alimentation riche en phytonutriments. Deux innovations, j'ai bientôt fini. Ce sont les solutions digitales. Donc, l'idée, c'est de mettre à disposition de tout un chacun des outils permettant de sélectionner votre alimentation. Et le deuxième type d'innovation concerne les ingrédients et les aliments à haute densité neuronutritionnelle dans une logique, effectivement, d'une alimentation à haute densité neuronutritionnelle. Donc, je vais finir là-dessus. Donc, je lance un appel à candidature. Si vous êtes une association, une société de service ou un industriel et étiez intéressé pour entrer dans notre programme au travers du comité d'utilisateurs, je vous invite à me contacter. Enfin, j'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de choisir votre alimentation pour effectivement vous permettre d'avoir un meilleur déclin cognitif. Je vous remercie.